Bonjour pour ce nouveau numéro de Perles à rebours. Je reçois avec la complicité de Christelle Bilan, Laurent Messager, Nasser Zouran, une autrice agrégée et docteur en philosophie, ainsi qu'un auteur double docteur en sociologie et en sciences de l'information et de la communication, membre de la revue Illusio, Fabien Lebrun. Ensemble, sous influence et peut-être avec quelques débordements, nous découvrirons la revue Sens Dessous qui vient de sortir officiellement son 36e numéro, mais qui de fait est publié en 37e position. Bienvenue au Café La Perle. Fabien Lebrun, les fidèles auditeurs auditrices du magazine de la rédaction d'Alternante FM savent que vous êtes l'auteur de « En 2020, on achève bien les enfants, écran et barbarie numérique » aux éditions Bordelot et de « En 2024, barbarie numérique, une autre histoire du monde connecté » paru aux éditions de l'Échappée. Aujourd'hui, je vous invite en qualité de lecteur critique de la revue Sens Dessous et aussi pour partager votre expérience en matière d'animateur de revue. Nadia Taïbi, comme je vous rencontre à l'antenne pour la première fois, nous allons tout d'abord faire votre connaissance. En 2007, au sein de l'université Lyon 3, vous avez soutenu une thèse de philosophie portant le titre de « L'expérience ouvrière de Simone Weil, la philosophie du travail ».
La philosophie au travail.
Au travail. Le copier-coller n'a pas fonctionné. Succinctement, qu'est-ce qui vous a motivé à suivre un cursus universitaire en philosophie, tout d'abord ?
Alors, qu'est-ce qui m'a motivé ?
Vous étiez sous influence ?
J'étais sous influence, oui. Non, c'était vraiment la discipline qui me semblait la plus, la plus riche, la plus susceptible de m'éclairer. J'étais une étudiante je travaillais à côté et je me disais pas que j'allais devenir enseignante, en fait. C'est de la philosophie pour le plaisir de faire de la philosophie. Puis ensuite, j'ai passé les concours parce qu'il fallait, bien manger, en quelque sorte.
Et quand on suit un cursus en philosophie, la filière la plus facile, c'est l'enseignement.
Oui, alors au départ, je voulais être journaliste, figurez-vous, cher monsieur. Mais finalement, l'enseignement, c'est très bien. C'est très très bien.
Quel a été le chemin, la construction intellectuelle pour choisir le sujet de votre thèse, si vous l'avez choisi ?
Ah oui, j'ai choisi, bien sûr. Alors, c'était davantage l'usine que Simone Weil. Simone Weil qui était à l'époque et aujourd'hui davantage lue, éditée, etc. Mais au départ, qui est une philosophe assez complexe, puisque c'est une philosophe que l'on a pu souvent, en fait, méconnaître, au sens où on l'a rabattue dans le champ plutôt de la métaphysique, de la spiritualité, etc. Notamment, il y a eu un ouvrage qui s'appelait « La pesanteur et la grâce » qui a été beaucoup lu. Ou alors, il y avait une autre dimension de Simone Weil, qui est la dimension plutôt lue par les économistes et les sociologues, plutôt, à savoir son travail à l'usine. Au demeurant, en tant qu'étudiante en philosophie, lorsque j'ai lu Simone Weil, je me suis aperçue que son travail à l'usine, c'était un vrai travail de philosophe et je me suis évertuée à essayer de le démontrer.
Fabien ?
Peut-être qu'on peut juste rappeler un titre que j'aime beaucoup de sa part, oui. Qui est un tout petit livre qui s'appelle « Pour la suppression des partis politiques ».
Tout à fait, absolument.
Aujourd'hui, vous enseignez au lycée Jean Lattre de Tassigny, à La Roche-sur-Yon. Alors, j'observe, c'est juste une observation.
Je vous en prie.
Que les aléas ou pas de votre existence vous font passer de Jean Moulin à Jean Lattre de Tassigny.
Oui. Mais je n'ai pas fait exprès. On me dit aussi de lyonnaise à ionnaise, c'est ça.
Et aujourd'hui, vous coordonnez une revue. Vous êtes sans doute très active à travers les cafés philo, les goûters philo ou les débats.
Oui, puis on anime aussi une université populaire à La Roche-sur-Yon depuis 10 ans maintenant. Donc oui, on est assez actifs, en effet. Je dis nous parce que c'est un travail collectif, bien sûr. Bon, je suis très dictateur, etc., mais quand même.
D'où mon interrogation. Êtes-vous une boulimique du travail ou c'est parce que vous faites partie de l'éducation nationale que vous avez du temps libre ?
Bah, les deux. De toute façon, quand on est prof, on ne fout pas grand-chose et on est super bien payé, c'est bien connu. Donc voilà. Non. C'est parce qu'en fait, les choses semblent se multiplier, mais en réalité, elles se complètent, puisque finalement, je ne fais jamais que de la philosophie ou des... Enfin, ça éveille ma curiosité. Ce que je fais pour la revue Sens Dessous anime mes cours réciproquement. Enfin, voilà, je ne fais pas de poterie à côté ou je ne sais pas ce que je pourrais dire. Une activité qui n'a rien à voir, vous voyez.
C'est bien la poterie.
C'est super la poterie, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça.
La revue Sens Dessous est éditée semestriellement depuis 2006 à 150 exemplaires par l'association Parole, créée en 2005 à La Roche-sur-Yon. L'association Parole a pour objectif de faire exister un espace public une pluralité que les discours autorisés ne restituent pas nécessairement. Fabien, cela vous parle ?
Ah oui, ça me parle. Je crois que la revue Lisieux s'inscrit tout à fait dans ce que vous venez de dire, Michel.
Toutes les revues s'inscrivent peut-être dans cet objectif, non ?
A priori, non. Enfin, en tout cas, on n'est pas là pour désinguer d'autres vues. Mais je ne pense pas que ça soit le parti pris, on va dire, théorique et politique de toutes les revues, en tout cas en sciences sociales.
Comment vous présenteriez la ligne éditoriale de la revue Sens Dessous ? Qui m'a mis sans dessus dessous.
Oh. Eh ben en fait, alors vraiment, c'est au départ sens dessous, c'est vraiment sens dessous. Ça veut dire le sens dessous. Voyez.
C'est la poussière.
C'est l'idée vraiment du principe philosophique de base, à savoir que même quand on n'a pas fait d'études philosophiques, on a entendu parler du mythe de la caverne, bien entendu, et qu'il fallait se défier des apparences, comme vous le savez. Par ailleurs, c'est aussi un jeu de mots, hein, sens dessous, voilà. Sens dessus dessous, on nous le fait aussi pas mal. Mais c'est surtout, c'est l'idée, en fait, que par-delà, ouais, effectivement, essayer de faire sortir quelque chose de l'époque, de l'actualité, puisque c'est un semestriel, qui peut échapper au discours ambiant et qui, en même temps, l'interroge, permet de le questionner. C'est assez ambitieux, hein, on a bien conscience. Voilà, et sinon, l'idée, c'est de trouver... Alors, il y a trois entrées, c'est-à-dire sociale et politique, philosophie, littérature et esthétique. Ça aussi, c'est très important pour nous, c'est-à-dire que la philosophie, c'est un socle, mais en même temps, ben, nous, on pense qu'il faut penser le réel. Donc, il y a beaucoup de sociologues, notamment, qui interviennent, mais aussi des psychanalystes, etc. Ça dépend des numéros, même des journalistes.
Pourquoi des journalistes avec
ouais, parce que je te regarde
mouvement de tête.
Voilà, que ça. Et puis aussi, on travaille avec... Alors là, on ne voit pas son travail, parce qu'on est à la radio, mais on travaille aussi, depuis toujours, quasiment, avec un peintre, Dominique Bulteau, qui nous fait les couvertures de chacune des revues. Enfin, il ne nous les fait pas. Il travaille, et nous, on profite de son travail, plutôt. Et l'idée, c'est vraiment de se faire croiser des intellectuels autour d'un thème. Et la ligne éditoriale, c'est... on est plutôt des personnes engagées, des personnes engagées de gauche. Voilà, enfin, je pense que ça se perçoit. Et ce qui nous permet... On a une certaine liberté par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, enfin, ce que vous disiez tout à l'heure.
On ne se connaît pas.
Non, on ne se connaît pas. Par rapport aux revues et par rapport à leur place dans... Je pense que Fabien voulait dire la même chose aussi. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'être libre aussi par rapport au monde universitaire qui parfois, en fait, propose des revues qui sont intéressantes, mais qui restent cloisonnées sur un objet... Là, les universitaires qui travaillent avec nous, je pense, profitent du fait d'avoir un petit espace de liberté, en fait. C'est modeste, hein, cela dit. Hein.
Une revue, il faut une entrée, un plat de résistance et un dessert.
Ou pas, ça dépend justement de la ligne de la revue. Non, mais ce que vous venez de dire, moi, ça me parle, puisque c'est comme ça qu'on a conçu et qu'on a animé la revue Lisieux, notamment sur un versant pluridisciplinaire, d'essayer de sortir un petit peu des discours clos, des réflexions qui sont un peu en silo. Et c'est vrai que convoquer des sociologues, des philosophes, des historiens, des économistes, mais aussi des essayistes, des écrivains, des journalistes, enfin voilà, essayer que la pensée se fabrique, se construise avec plein de sources différentes.
Et par rapport à ce que vous dites, ce qui me semble important aussi, en tout cas pour Sens Dessous, c'est qu'on pense l'objet tous ensemble. Voilà, par exemple, moi, quand je fais les appels à contribution, je ne vais jamais me dire « tiens, j'ai envie de discuter avec cette personne », ça peut arriver. Mais c'est surtout parce que elle a traité la question de cette manière-là que j'ai envie de travailler avec elle. Et en fait, ça rend les choses beaucoup plus claires, beaucoup plus libres, encore une fois.
Vous ciblez un lectorat particulier ?
Non. Tout le monde est... Alors j'ai bien conscience que certains articles sont plus accessibles que d'autres. Peut-être le format entretien permet une lecture plus facile. Non, sinon tout le monde... J'ai des élèves qui, alors peut-être juste parce qu'ils veulent des bonnes notes, j'en sais rien. Mais on peut, y a certains articles qui sont accessibles même en terminale, enfin, je pense.
Vous avez combien d'élèves ?
En tout, dans ma vie ? Oh là là.
Non, non, en ce moment.
À peu près 150.
Ah oui, donc 150 tirages, 150 élèves.
Exactement. Et s'ils n'ont pas acheté, ils n'ont pas la moyenne.
Vous allez chercher les auteurs, les autrices en fonction du thème que vous avez choisi.
Oui.
Vous frappez à leur porte.
Oui, j'envoie un appel à contribution. Pour les entretiens, je lis beaucoup leurs travaux quand même, en leur disant « voilà, nous allons traiter ce thème, vous avez fait ça, est-ce que ça vous intéresserait ?» En général, ils disent « bah oui, évidemment ». Il s'avère que, en fait, ce sont des thèmes qui gravitent autour de nous. Voilà, débordement, par exemple, ou influence. Quand on parle d'influence, évidemment, aujourd'hui, par exemple, il y a l'idée d'influenceur, vous voyez. Mais je n'y avais même pas pensé. Parce qu'en réalité, c'est des mots qui sont tellement utilisés de manière... C'est en fait, on essaye, mais c'est pas du tout un exercice difficile. En général, on discute. Et puis voilà, donc le mot influence, il circule beaucoup en ce moment. Les lobbies, la question de Sarkozy qui est en prison, donc du coup, des conflits d'intérêts. Enfin, on est dans un monde qui pose cette question. Voyez-vous, je suis clair là.
On va s'intéresser au numéro 35 avant de présenter le 36e numéro qui est l'actualité. Je vais juste demander à Fabien ce que ça lui évoque, la notion de débordement. Il faut indiquer que chaque numéro est décliné selon un thème, sauf le 35 et le 34, parce que c'est débordement 2 le 35 et donc le 34 c'est le débordement 1. C'est un numéro qui a débordé.
Exactement.
Ça m'évoque le fait qu'on est souvent débordé, notamment pour boucler une revue. C'est le fait d'être débordé peut-être vis-à-vis de la tâche qui nous incombe aujourd'hui, à penser le monde, à le penser critique et à ouvrir aussi des brèches et des pas de côté. C'est peut-être ça en fait. Moi je me sens souvent débordé vis-à-vis de l'urgence et en même temps du temps qu'il faut pour penser ce monde et nous donner des espaces un peu d'ouverture.
Non mais je suis d'accord avec vous et c'est vrai, et ça crée un sentiment même. Là, ces derniers temps, en fait, l'actualité a tellement été précipitée que on ne sait plus. Je suis complètement d'accord.
Et peut-être que, en discutant là, si ça me fait penser, pour recouper un peu ce que je disais précédemment, à l'accélération, notamment aux travaux d'Arthnoutrosa. Ouais. Voilà, cette société qui fait que ce monde contemporain où on se sent toujours acculé et qui empêche aussi de se poser, de réfléchir et d'agir, non pas à la va-vite dans un militantisme à tout va, mais voilà, Ouais, donc le débordement, accélération, je crois que ça va bien ensemble.
En fait, c'est à la fois ce que vous dites, Fabien, c'est-à-dire cette espèce d'effet de sidération face à l'accumulation en fait, d'informations, de lieux potentiels d'action. Mais moi, j'ai trouvé aussi que dans le terme, il y avait une dimension très, très subversive, c'est-à-dire déborder, sortir des limites. Notamment, on a fait un entretien avec Rebecca Chaillon, qui est une femme de théâtre, qui propose un théâtre qui déborde, justement. Et donc, voilà, il y a aussi cette dimension créatrice. Mais pour autant, c'est ça qui est paradoxal, c'est que pour que le débordement déborde, il faut qu'on puisse quand même le tenir. Quoi.
Qu'est-ce qui a motivé le choix de ce thème ?
On cherchait un terme qui dise l'état dans lequel on pouvait être avec ces Gaza, c'est les manifs contre les retraites, c'est une sidération continuelle de l'ordre du monde, c'est Donald Trump par exemple, comment dire tout ça ?
Lundi dernier, j'ai appelé l'un de vos auteurs publié dans le numéro 35. Maître de conférence à l'Université d'Angers, membre des économistes atterrés, David Kaila. Pourquoi a-t-il accepté de répondre à Martine Chantecaille ? Parce qu'il la connaît bien, m'a-t-il dit, mais aussi parce que...
En général, quand on me propose de m'interviewer sur un sujet qui est au cœur de mes recherches, j'ai envie de dire que c'est un peu normal pour un chercheur de répondre. Enfin, c'est le thème de la question, enfin des questions qui fait que je réponds.
Quand on vous dit on aimerait une contribution sur le thème du débordement, qu'est-ce que vous vous dites ?
En fait, ce n'est pas comme ça que ça m'a été présenté. Ça, c'est ce que fait la revue. Ils essaient d'organiser un numéro un peu cohérent. Mais moi, on ne m'a pas dit que j'allais parler sur le débordement, parce que sinon, je n'aurais pas su quoi dire. on m'a proposé plutôt de répondre à des questions sur mes travaux. Et après, c'est eux qui font le lien entre ce que j'ai écrit sur le néolibéralisme et ce que eux envisagent d'organiser dans leur revue.
Et le titre « Dépasser démocratiquement le néolibéralisme », c'est pas votre titre ?
Alors, c'est pas mon titre, mais par contre, c'est bien une idée qui est au cœur de mon travail. Puisque mon travail, c'est de réfléchir d'abord à ce que c'est que le néolibéralisme, ensuite à essayer d'en voir les limites, et puis ensuite de réfléchir sur son dépassement. Ça, c'est effectivement au cœur de mon travail.
Mais dépasser, c'est pas déborder.
Ah ben ça, c'est une grande question. Alors, là encore, je parle uniquement de mon travail. Ce que j'ai voulu montrer, c'est qu'il y avait bien une forme de débordement dans le néolibéralisme, au sens où c'est pas une doctrine qui a été conçue pour favoriser les plus riches ou pour détruire la démocratie ou des choses comme ça. C'est-à-dire que c'est une doctrine qui a été conçue sur des préceptes philosophiques qui sont tout à fait acceptables, mais qui, dans ses conséquences inattendues, sape les fondements de la démocratie, produit finalement un environnement économique assez violent et entraîne des inégalités. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est justement les effets non prévus d'une doctrine politique. Et donc, de ce point de vue-là, on peut bien parler un peu de débordement, puisque, en fait, les conséquences ne sont pas forcément celles que les initiateurs de cette doctrine avaient.
On peut construire un nouveau modèle en conservant quelques bases. C'est un peu le sens de l'article.
Oui, toute la question, c'est comment on imagine un nouveau modèle, sachant qu'on ne peut pas tout jeter. L'état de droit, par exemple, je pense que c'est quelque chose de très important. Et en même temps, le nouveau modèle, bah, sur quoi il doit reposer? Alors, moi, mon principe, c'est la démocratie qui doit être au cœur de notre fonctionnement social. Et donc, à partir de ces bases, j'essaye de tirer des réflexions.
La conclusion de l'interview reste à construire un modèle alternatif qui fonctionne réellement. Il y a encore du travail. Ça veut dire que vous faites l'analyse, vous réfléchissez, mais vous n'avez pas en tête un modèle qui pourrait fonctionner.
C'est compliqué. L'économiste, il est là pour deux choses. D'abord, pour essayer de comprendre le fonctionnement du monde. Et dans ce cas-là, quand il fait ça, bah, il observe et puis il montre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et là, évidemment, quand il fait juste ça, bah, du coup, il propose pas de solution. Il observe la réalité. C'est comme l'astrophysicien qui observe le mouvement des planètes ou des galaxies. Bah, ça peut ne pas lui convenir, mais bon, il peut pas trop changer. Mais évidemment, chez l'économiste, chez la plupart des sciences sociales, en fait, on a aussi un pouvoir prescripteur. Donc, on peut aussi essayer d'imaginer des choses qui fonctionnent. Mais c'est pas, j'insiste, hein, c'est pas exactement le même métier que celui d'écrire, celui de proposer des solutions. Alors, moi, je trouve qu'il faut faire vachement gaffe à ça, c'est-à-dire que l'économiste ne peut pas se substituer aux politiques et ne peut pas se substituer justement au débat démocratique. À partir du moment où on défend la démocratie, on ne peut pas juste arriver en disant, bah voilà, j'ai la solution, c'est la seule qui vaille, il faut faire ça. Parce qu'on squeeze un peu le débat et le fait que bah, dans toute solution, il y a des gagnants, des perdants et que ce n'est pas si facile, même s'il y a plus de gagnants que de perdants. Encore une fois, l'oppression de la minorité, ce n'est pas un principe démocratique. Donc, ce que je peux faire et ce que j'essaie de faire, c'est donner des grandes perspectives de choses qu'on pourrait faire. Alors, je ne l'ai pas fait forcément dans cette interview parce que voilà, c'était un peu succinct, mais dans certains ouvrages, je réfléchis à la transition écologique, je réfléchis à la manière dont on peut réorganiser les relations entre État et marché. Mais j'en reste sur des grandes lignes et des grands principes plutôt que sur la mise en application qui, pour moi, relève vraiment, là, pour le coup, du débat démocratique.
David Kayla, joint par téléphone avec la complicité de l'Huma Café de Nantes. Vous écoutez bien Perles à rebours, magazine de la rédaction d'Alternante FM. Nos invités sont Nadia Taïbi de la revue Sens Dessous et Fabien Lebrun de la revue Illusio. À quoi sert une revue ?
Il y a une ligne éditoriale, il y a une volonté quand même d'orienter aussi, pourquoi pas, alors ce serait peut-être ambitieux, pas le débat public, mais en tout cas que certains thèmes soient traités de certaines façons. Et que ça s'inscrit quand même, bah justement, là tout à l'heure, on parlait de démocratie, bah que des opinions, y compris peut-être à la marge, ou puissent exister, être travaillées, être contredites. Mais je pense que la recherche quand même d'une revue, c'est ça, c'est quand même qu'il y ait une identité ou une non-identité, mais là on va un petit peu loin, et qu'à travers cette ligne éditoriale, bah on puisse tout simplement explorer différents champs de pensée et donc de pratiques sociales. Quoi.
Mais dans ce sens dessous, ne cherchez pas la critique pour la critique.
Alors, on cherche à mettre en crise, donc au sens de la critique, en ce sens-là, si. C'est-à-dire qu'en fait, on propose... Alors, c'est plus ou moins réussi en fonction des numéros. On peut être plus ou moins content à la relecture, parce qu'elle a 19 ans quand même, la revue. Donc, il y a des numéros où on se dit « Oh !» Bref, et puis d'autres, au contraire, on est très content. C'est quand même ce que disait Fabien. C'est-à-dire quand même, on prend un thème et on décide de le discuter, de le faire se discuter avec quand même 14 contributions à chaque fois. Donc... des gens qui ne discutent pas ensemble d'habitude, en fait, finalement, qui se rencontrent pour ce numéro-là. Et donc, forcément, il y a quand même une dimension critique au sens, bah, sens de gratter, de chercher, mettre en crise, en fait, des lieux communs, des évidences, influencer. Bah, en fait, là, l'idée, par exemple, je reprends influence, désolé, hein, je déborde.
Parce que vous êtes dans l'actualité, mais on va en parler tout à l'heure.
C'est bien, ça peut être bien, l'influence, en fait. Puis non, mais ce que je voulais dire, c'est que si je pense qu'il y a cette volonté-là, après, je n'ai pas dit que forcément, ça aboutissait. On ne réussit pas forcément, mais c'est ce à quoi on aspire.
Mais vous corrigez les articles ?
Ah bah oui, c'est un gros boulot, ça. C'est un énorme boulot, hein, Fabien.
Travail de petite main.
Ah bah oui, c'est-à-dire que les articles, bah, une fois qu'ils sont reçus, ils sont corrigés 5 fois. Il y a 5 relecteurs. Et plus le maquettiste qui a un appareil où il enlève tous les trucs, toutes les petites fautes. Donc ouais, c'est énorme.
Vous vous êtes posé les limites du débordement ?
J'ai pas compris la question.
Est-ce que finalement, le principe même du débordement vous fait aller vers tout type de personnes ?
Non.
C'est où la limite ?
Par exemple, il y a des gens qui débordent parce qu'ils sont néo-fascistes. Bah non, du coup, je vais pas faire d'entretien avec eux. Parce que ça m'intéresse pas. Alors par contre, Carl Schmitt, philosophe d'extrême droite, ça m'intéresse.
Donc il pourrait être publié ?
On pourrait publier un article qui parle de Carl Schmitt.
Qui parle, mais...
Ah bah lui, non. Mais il est mort.
Oui, mais je veux dire, on est dans l'idée.
Oui, mais il pourrait, mais je pense qu'il ne voudrait pas, déjà, mais il pourrait, ouais. Oui, il y a même des auteurs qui sont plus conservateurs qui ont travaillé avec nous. Mais disons qu'il y a quand même une ligne éditoriale, il y a une implication dans le, comme disait Fabien, dans le débat démocratique. Donc, vous voyez.
Quand je vous ai demandé quelle était la ligne éditoriale de Sens Dessous, je me suis demandé si c'est d'abord l'hétérodoxie, l'approche non conformiste du sujet qui vous intéressait, plus que son traitement. Voilà. 4 heures pour répondre à la prof de philo.
Disons que l'approche hétérodoxe, enfin bref, non conforme, c'est aussi une manière de le traiter.
Aha. Je voulais faire référence à un des articles.
Oula, donc, j'ai en tête peut-être.
Je peux peut-être vous laisser le découvrir. Pour vous donner des indications, je suis allé consulter.
Toujours dans
Débordement ? Oui, numéro 35. Le site d'une association.
D'accord.
Donc un des auteurs, des contributeurs et président de cette association, qui est l'Association française transhumaniste.
Ah.
On voit en page d'accueil « Plus humain demain, nous prenons l'usage des sciences et des techniques afin d'améliorer les caractéristiques physiques et mentales humaines. »
Alors là, effectivement, c'est alors une très bonne question, parce que alors, cet article, il nous a vraiment posé problème. Non, c'est moi qui ai engagé, c'est Marc Roux.
Oui.
En fait, on a hésité, parce que c'est une vision qu'on ne partage pas, du transhumanisme comme, comment dire, idéal. Mais au demeurant, il semblait que dans la conversation, il fallait qu'il puisse s'exprimer. Donc on a discuté, il sait où il a mis les pieds, lui. Et donc, à partir du moment où son propos peut être discuté, parce qu'il n'est pas tout seul dans le...
Oui, mais là, vous l'avez corrigé, l'article, parce qu'il est greenwashisé.
Non, il a été relu, on lui a renvoyé. Bah, c'est-à-dire qu'au départ, M. Roux, il a tendance, lui, à faire un petit peu de la propagande autour du transhumanisme, en fait. Donc là, c'était l'objet, c'est lui dire, on veut bien, nous, parler de cette question-là, mais il faudra que le point de vue soit un peu critique.
Il a tenu l'article.
Absolument.
Ce qu'on ne retrouve pas forcément
sur
le site. Exactement,
sur le site, oui, tout à fait.
Donc là, moi qui ne connaissais pas ce site, grâce à votre revue, je l'ai découvert et je vais devenir transhumain.
C'est vrai, c'est vrai.
C'est une lourde responsabilité, Fabien.
C'est horrible.
De devenir transhumain.
Je ne sais pas.
C'est un choix. Ça ne sera pas le mien.
C'est un sujet que maîtrise bien Fabien.
Ah.
Maîtrise, je ne sais pas, mais j'y suis forcément... Enfin oui, si, ça m'intéresse énormément dans le sens où je m'intéresse beaucoup à la question technologique. Bon, là, clairement, avec les transhumains, c'est une des caractéristiques parmi d'autres, mais ce sont même plus des technophiles ou des technolâtres, ce sont des idéologues, des fanatiques de la technologie jusqu'à la pensée en tant que fusion avec l'humain, le corps humain, et toutes les questions que ça pose, éthique, politique, idéologique, derrière.
Oui, mais la revue Sens Dessous a trouvé un transhumain hétérodoxe.
Non.
Non ?
Non, non, non. Ce qui est hétérodoxe, c'est de le faire, de lui donner une petite place en lien avec d'autres articles qui vont justement mettre en question son, comme vous disiez, son fanatisme en fait. Mais c'est vrai qu'il a accepté cependant le challenge.
Fabien Lebrun, c'est aussi un sujet que vous maîtrisez bien. Si je fais référence à la dernière livraison de la revue Illusio sur le thème... Corps, médecine, santé.
Oui, alors c'est pas le dernier par contre.
C'est pas le dernier. Je suis allé interroger le site, il n'est pas actualisé.
Il n'est pas actualisé, mais ça fait aussi référence au dernier thème, puisque ça me permet de l'évoquer rapidement. Le dernier numéro de la revue, il s'intitulait « Totalitaire ». Donc on peut faire des ponts entre corps, santé, médecine et totalitaire. Donc oui, après moi je ne sais pas là si c'est le moment et l'espace pour développer, mais c'est un thème qui de toute façon est présent. Mais qui, je pense, est largement diffusé. On parlait d'influence, on va peut-être y venir, mais c'est quelque chose qui, maintenant, est assez présent. Ce qui est inquiétant, plutôt, peut-être même un peu banalisé. Et je pense que c'est même les tenants du transhumanisme qui maîtrisent le débat. C'est-à-dire qu'ils maîtrisent aussi le contour de comment on en parle, y compris si on veut y émettre des critiques ou des limites. Bon, voilà. Mais il y a un vrai travail de fond, là, c'est évident, à faire, puisque c'est quand même l'orientation de nos sociétés anthropologiques vers lesquelles, enfin, si tant est qu'on peut encore parler d'anthropologie, vers lesquelles on va. Et c'est notamment tous les tenants des big tech, des multinationales de l'informatique, enfin bon, là je vous apprends pas grand-chose, qui sont tous transhumanistes, qui le revendiquent et qui pensent que c'est un vecteur, pourquoi pas, d'émancipation, et etc., etc. Donc là, il y a débat et il faut qu'il ait lieu.
Donc si on veut affiner sa réflexion, on investit dans Sens Dessous à 15 euros et Illusio à 25 euros.
20 même.
Celui que j'ai consulté était à 25.
Exact, oui. Corps santé médecine.
Inondation de Kate Kuna. Vous êtes bien sur Alternante FM, 98.1 Nantes, 91 à Saint-Nazaire. Les invités de Pearl Harbor sont Nadia Taïbi et Fabien Lebrun. Et comme promis, nous allons présenter le numéro 36 de la revue Sens Dessous. Avant de céder la parole à Fabien Lebrun, nous allons préciser que le thème retenu pour cette 36e livraison est influence. Qu'est-ce qui a motivé ce thème? Avec quelle idée derrière?
Bah en fait, l'idée...
Qui vous a influencé?
Oh là là. Bah, l'air du temps. Mais alors, un air du temps à rebours, parce que, en fait, on s'est surtout intéressé au fait que, bien qu'on parle effectivement des influenceurs, des propagandistes de tout genre, des lobbies, etc., il n'en demeure pas moins que l'idée de la réussite sociale et politique semble être l'idée de quelqu'un qui serait sans influence. Celui qui s'est construit comme ça, la méritocratie, etc., etc. Et en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est quand même la vulnérabilité. C'est rappeler qu'en fait, il y a une espèce de construction commune de chacun d'entre nous. Et donc, on est tous sous influence, plus ou moins. Et qu'est-ce qu'on en fait, en fait? Que c'est ça la vraie question.
Il est impossible de ne pas être sous influence.
On est toujours sous influence, mais à partir de là, qu'est-ce qu'on en fait? Vous voyez, comment est-ce que, par exemple, on peut dire... Je prends un exemple tout bête. En tant qu'enseignante, on va demander aux étudiants ou aux lycéens de travailler, de réussir, enfin, de chercher à réussir, etc. On est aussi conscient qu'en fonction du milieu dans lequel ils vivent, les influences qu'ils subissent favorisent plus ou moins bien leur mise au travail et donc forcément produisent des résultats plus ou moins efficients par rapport à l'éducation nationale. Et que du coup, maîtriser cela, ou tenter de le maîtriser, chercher à le maîtriser, en fait, c'est quand même se donner les moyens de se libérer mutuellement, l'enseignant comme l'élève.
Est-ce que la prof de philo est une influenceuse?
Absolument, cher monsieur. Et elle gagne beaucoup d'argent.
Vous faites vos cours en visio depuis Dubaï, c'est
bah,
ça?
Depuis toujours n'importe quoi. Je ne sais pas où c'est Dubaï, moi je croyais que c'était toujours.
Pour présenter la revue, donc le numéro 36, je dois l'avouer, j'ai sous-traité. Fabien, il y a un article qui vous a particulièrement intéressé sur les lobbies.
Je vous aurais bien proposé de, comment dire, pourquoi vous êtes allé aussi vers la question des lobbies, ou est-ce que ça vous est apparu évident, ou voilà. Et puis après peut-être que j'aurai aussi des choses à dire là-dessus, mais moi c'est quelque chose qui me parle pas mal, et c'est un thème, et tout à l'heure on parlait d'influence, je pense qu'il y a des influences qui sont aussi très contemporaines, et c'est peut-être comme ça aussi qu'un numéro de revue, moi c'est aussi comme ça que je vois avec Illusio, c'est que quand on traite un thème, on essaie quand même de le travailler avec le contemporain, et il y a des influences qui sont quand même là plus contemporaines que d'autres. Ouais. Alors j'en ai en tête, mais peut-être que je ne sais pas si vous voulez un peu échanger là-dessus.
Sur les lobbies, bah, en fait, c'est tout simplement parce que faire un numéro sur influence, ça implique quand même de s'intéresser au rapport de pouvoir aussi, et qu'est-ce qui produit, comment les décisions politiques sont... D'abord, est-ce qu'il y a vraiment des décisions politiques, ou est-ce qu'elles sont elles-mêmes le fruit de ces réseaux d'influence qui se disent lobbies? Et en fait, Stéphane Aurel, j'avais lu son livre « Lobitomie », je trouve son travail absolument formidable. Et voilà, elle a accepté de faire l'interview, j'étais très très heureuse de ça.
Pour rebondir, moi je connais aussi son travail précédent avec le journaliste Stéphane Foucard, « Les gardiens de la raison
».
Et moi je vous parle de ça parce qu'il y a une nouvelle forme d'influence ou de lobby, enfin nouvelle je pense, qui est liée aussi à la question du numérique, notamment sur les jeunes. Moi, ce qui m'intéresse, il y a un journaliste qui commence à travailler là-dessus, et a priori, alors je ne devrais pas le dire, mais je vais le publier dans une collection que j'ai créée, et qui travaille notamment sur les lobbies au sein de l'éducation nationale, et comment les lobbies du numérique œuvrent énormément pour instiller le doute quant aux impacts des écrans sur les enfants. Et à coup d'experts médiatiques, on voit toujours un peu les mêmes, alors je ne donnerai pas de nom aujourd'hui, mais ça viendra plus tard, qui, à travers des pseudo-études ou pseudo-recherches, nous font croire qu'il n'y aurait pas un consensus académique et scientifique sur ces effets, ces impacts délétères sur les enfants. Donc on est vraiment sur une question aussi de santé publique, et on voit bien que derrière, c'est les lobbies du numérique, des GAFAM, qui d'ailleurs, je crois, au niveau de l'Europe, de la Commission européenne, sont surpuissants, c'est peut-être les lobbies les plus puissants. Bon voilà, donc il y a aussi cette question, et un peu dans la veine justement de Stéphane Aurel et Stéphane Foucard, le journaliste qui s'intéresse et aussi influencé d'ailleurs par ses travaux, et lui va aller bûcher sur la question des lobbies du numérique au sein de l'éducation nationale.
Et ce que vous dites en fait me fait, justement par rapport au travail de Stéphane Aurel, alors je ne connais pas la personne dont vous parlez sans dire le nom, mais en tout cas elle montre très bien, enfin ils montrent très bien tous les deux comment en fait... le lobby agit de manière quasi inconsciente, en fait. Elle utilise d'ailleurs beaucoup de, elle a beaucoup de références psychanalytiques, en fait, hein, pour moi. Et là, par exemple, par rapport à l'éducation nationale, je ne connais pas le travail, mais en tout cas, ce que je vois, c'est comment on a des discours complètement contradictoires vis-à-vis des élèves. Par exemple, on met toutes les notes sur Pronote, voilà, vous connaissez. Donc, ils sont complètement focalisés là-dessus. Donc, toute la journée, ils sont sur leur écran, concrètement. Et en même temps, on les invite à lire des livres, qui est complètement contradictoire, en fait.
Merci à la fine équipe d'Alternantes, Christelle Bilan, Laurent Messager et Nasser Zouran pour leur libre contribution à ce numéro de Pearl Harbor. Et merci à mes invités, Nadia Taïbi de la revue Sens Dessous et Fabien Lebrun d'Illusio, de Barbarie Numérique et puis éditeur d'un futur titre dont on n'a pas le nom.